C'est un domaine de la science qui fait régulièrement la une des journaux. Il s'agit de la microbiologie. Les découvertes et les nouveaux concepts de ces 20 dernières années dans ce domaine ont bouleversé les connaissances autour des microbes. Et au cœur de la grande famille justement des microbes, ce sont les bactéries qui ont révélé de nouveaux secrets et permis l'émergence de techniques révolutionnaires pour manipuler le vivant. Pascal Cossard est professeur de microbiologie à l'Institut Pasteur. Elle publie la nouvelle Microbiologie chez Odile Jacob. Elle est mon invitée dans un instant. À la une de la science aujourd'hui, des nouvelles du hobbit indonésien, ce petit homme qui vivait il y a 700 000 ans sur une île de l'archipel asiatique. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu. Oui, de nouveaux fossiles très anciens du petit homme de Flores viennent d'être trouvés. Une preuve de plus que cette humanité de petite taille a perduré et n'est ni exotique ni pathologique.
Stéphanie Texier réalise notre Tête au carré, préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Dylan Beiner.
La Tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Pascal Cossard.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut enfin dire aujourd'hui que les microbes sont nos amis et qu'il faut absolument apprendre à les aimer ?
Les bactéries sont nos meilleurs amis intimes. Il faut vraiment les connaître et les aimer.
Pourquoi les bactéries en particulier alors ?
Je vais parler des bactéries aujourd'hui parce que c'est celles que je connais le mieux parmi tous les organismes vivants de toute petite taille. Mais vraiment, on a vécu des révolutions. On a vécu des nouveaux concepts qui ont émergé récemment et j'ai vraiment envie d'en parler et que tout le monde connaisse ce qui se passe à l'heure actuelle en microbiologie.
Et c'est au cœur de votre ouvrage, donc la nouvelle microbiologie. On se retrouve dans un instant donc ensemble avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent. Et de nouveaux fossiles de l'homme de Flores découverts en Indonésie qui lèvent aujourd'hui le voile sur cette lignée d'hommes à la taille très réduite.
In a hole in the ground lived a hobbit.
À partir d'un simple mot inventé par hasard, le professeur Tolkien imagine l'existence de tout un peuple, les hobbits. De petites gens paisibles, aux pieds couverts de fourrure, habitant dans la verte région de la comté, de confortables maisons troglodytes.
Et ils sont petits, c'est vrai, parce qu'ils mesurent à peine un mètre de haut, ils sont trapus, ils agitent les débats entre paléoanthropologues depuis maintenant plus de 10 ans. De nouveaux fossiles attribués donc à l'homme de Flores ont été trouvés à 70 km de la grotte de Liang Bua, où les 12 premiers squelettes avaient été identifiés en 2003. L'homme de Flores donc maintenant parfaitement confirmé et plutôt en bonne forme, puisqu'il aurait perduré plus de 600 000 ans. Bonjour Antoine Balzo.
Bonjour.
Vous êtes paléoanthropologue pour le CNRS et le Muséum National d'Histoire Naturelle. Et puis en ligne, nous sommes avec Jean-Jacques Hublin. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Jacques Hublin, vous êtes paléoanthropologue à l'Institut Max Planck de Leipzig. Jean-Jacques Hublin, cette fois, eh bien, c'en est bel et bien terminé des débats. Notre homme de Flores n'est pas un homo sapiens malade ou mal formé. On en est absolument certain ?
Ah oui, je crois que cette fois-ci, c'est le dernier clou dans le cercueil du microcéphale. Hein. Il y a 700 000 ans, c'est l'âge de cette nouvelle découverte, il n'y avait pas d'homme moderne et donc on ne peut pas imaginer que cette nouvelle découverte, c'est encore celle d'un homme moderne avec un cerveau de taille réduite pour des raisons pathologiques et une forme de nanisme anormal.
Antoine Balzo, c'est ces 700 000 ans qui sont très surprenants dans cette découverte.
Avec donc cette mandibule qui a été découverte, hein, qui permet donc de dater. Hein.
C'est surtout ça qui est exceptionnel et vraiment palpitant avec ces nouveaux fossiles, c'est que ça donne une perspective aux hommes de Flores qui est très étendue dans le temps. Avant, on en connaissait juste quelques spécimens, un certain nombre quand même, pour des découvertes fossiles, c'est beaucoup, mais qui venaient d'une seule zone et sur une petite période de temps. Là, ça donne une perspective et une distance dans le temps très très importante, puisqu'on a une survie d'hommes de petite taille sur cette île sur 600 000 ans, ce qui est par exemple 3 fois la durée depuis laquelle Homo sapiens existe.
Oui.
Jean-Jacques Hublin, est-ce qu'on est sûr que cette lignée a perduré 600 000 ans ou c'est plusieurs apparitions ? Est-ce qu'on peut vraiment conclure ?
Pour l'instant, on a des restes assez fragmentaires. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les fragments de mandibule qui vient d'être découverts, indépendamment de sa taille, ressemblent quand même morphologiquement pas mal au hobbit le plus récent, hein, celui qui a entre 100 et 50 000 ans. Du point de vue dentaire, il y a une évolution, mais c'est normal sur une période de temps aussi longue. Alors maintenant, pour avoir un phénomène comme le nanisme insulaire qui se développe, il faut quand même une isolation de cette, un isolement, excusez-moi, de cette île pour que les populations animales et humaines évoluent dans ce sens-là.
Antoine Balzo, quelles pourraient être les populations à l'origine qui sont venues s'isoler sur cette île?
Alors le débat est pas clos pour cet aspect-là, parce qu'on avait avec les derniers hommes de Flores, les plus récents, une image un peu complexe. Les os du squelette semblaient rappeler les premiers homininés, des australopithèques ou des homo habilis. Mais c'est vrai qu'aussi, on connaît assez mal la variabilité du squelette chez Homo erectus en Asie, parce qu'on a trouvé très peu de fossiles. Et à l'inverse, le crâne avait une morphologie qui rappelle vraiment ce qu'on trouve chez les fossiles asiatiques, les Homo erectus qui ont vécu juste avant cet homme de Flores. Et là, ces nouvelles découvertes, en particulier le fragment de mandibule, vont aussi dans ce sens-là, parce que ça ressemble beaucoup aux découvertes récentes, plus récentes dans le temps de l'île de Flores, et globalement, ça ressemble à la morphologie qu'on voit chez Homo erectus.
Oui, donc c'est ce fragment de mandibule qui est vraiment la pièce à conviction et qui permet de réécrire une grande partie de cette histoire de l'homme de Flores.
Ah, parce que pour le moment, c'est la grosse découverte. Ils ont trouvé ce fragment de mandibule et six petites dents. Oui. Aussi avec des proportions très particulières. On peut imaginer qu'ils vont faire d'autres découvertes parce qu'ils ont fouillé une certaine zone, ils ont trouvé des outils associés, de la faune associée, donc il y a un potentiel énorme dans cette région.
L'enquête ne fait que commencer.
Est-ce que Jean-Jacques Hublin, on connaît un peu les capacités techniques de cet homme, sa façon de vivre?
Alors,
ou est-ce qu'on peut l'imaginer au moins?
Oui, au moment de la découverte du premier Hobbit, il y a eu beaucoup de spéculations sur ses capacités. Hein. On a un petit peu rêvé un véritable hobby comme celui de Tolkien, hein, dansant autour de feux de joie après une chasse au stégodon nain, et fabriquant des outils très sophistiqués. Alors depuis, on s'est rendu compte qu'en fait, les fouilleurs avaient confondu des niveaux hein, lors de ces premières fouilles, et qu'en réalité les données archéologiques qui avaient été associées au Hobbit étaient beaucoup plus récentes que sa disparition. Alors si on revient à la réalité, c'est-à-dire l'outillage lithique est associé aussi bien dans ce nouveau site de 700 000 ans que dans la grotte de Liangboa, c'est quand même une industrie lithique assez simple, hein, assez fruste, et donc sont des gens qui sont arrivés là avec la capacité de produire de l'outillage lithique, qui ont continué à produire de l'outillage lithique, mais cela étant dit, ils n'ont pas réinventé des formes techniques aussi avancées que celles qu'on va trouver avec les hommes modernes qui les remplacent il y a 50 000 ans.
Et c'est lié à la taille de leur cerveau, justement, cette incapacité à innover, en tout cas
Ce qui est remarquable, c'est que les outillages qui ont été découverts dans ce nouveau site de Mata Mengue ressemblent, qui ont donc 700 000 ans, hein, oui. D'une part sont différentes de ce qui semble avoir été à l'origine introduit dans l'île avec les premiers Homo erectus qui sont arrivés avant 1 million d'années, mais en même temps ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve à la fin de cette histoire, il y a 50 000 ans, donc on a quand même l'image d'une grande stabilité du comportement.
Il va falloir trouver d'autres fossiles, Antoine Balzo, au milieu de cette grande plage temporelle pour vraiment confirmer tout ça.
Pour avoir plus de détails sur l'histoire, pour voir quelles relations ils peuvent avoir, pour mieux comprendre aussi le mécanisme de nanisme, en trouver un petit peu avant, en trouver entre les deux, ce serait formidable pour arriver à vraiment comprendre tout ce qui s'est passé.
Oui, pour l'instant, donc, cette mandibule uniquement, on peut espérer trouver d'autres fossiles humains ou pas?
Alors c'est évidemment, si on cherche des fossiles, on a la chance d'en trouver, mais c'est vrai que ça reste une découverte exceptionnelle. Dans l'absolu, sept nouveaux restes humains, c'est génial.
Ouais. Jean-Jacques Hublin, pour terminer, comment s'est éteinte la lignée des hommes de Flores?
Alors, cette question, elle a été résolue finalement assez récemment, puisque donc au moment de des premières découvertes, on a cru que ces hobbits avaient survécu jusqu'il y a seulement 18 000 ans. Ce qui était quand même un petit peu étonnant, parce que il y a 18 000 ans, il y avait des hommes modernes comme vous et moi, en tout cas comme les Mélanésiens actuels, qui vivaient dans la région et depuis longtemps. Ça paraissait un petit peu étonnant qu'ils aient laissé tranquilles ces petits hobbits dans leur grotte. Alors on sait maintenant que les derniers hobbits ont certainement disparu autour de 50 000 ans, et donc ça correspond en fait exactement à la date de colonisation de l'Australie, de ces régions-là. Et donc c'est très probablement en fait l'arrivée des hommes modernes dans cette partie-là de l'ancien monde qui a sonné le glas de cette population très très curieuse. Hein. C'est le seul cas de nanisme insulaire qu'on connaisse non seulement pour des hominines, mais pour des primates. Hein.
Voilà, donc cette histoire bien se poursuit, effectivement. Hein, on en raconte quelques chapitres régulièrement dans cette Une de la Science. Merci beaucoup Jean-Jacques Hublin, merci à vous Antoine Balzo. On vous retrouvera tous les deux d'ailleurs à ce même micro dans une quinzaine de jours pour une spéciale autour de Néandertal. Merci beaucoup Axel, à demain.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, Nyonium, Moscovium, Ténécine et Oganesson, et bien voilà les très probables noms que porteront les quatre éléments lourds qui sont venus achever la septième ligne du tableau de Mendeleïev en janvier dernier. Leurs noyaux contiennent respectivement 113, 115, 117 et 118 protons. Ces patronymes ont été donnés en hommage à un scientifique ou au laboratoire qui les ont découverts. Un débat public est désormais ouvert jusqu'au 8 novembre avant que l'Union internationale de chimie pure et appliquée ne les accepte définitivement. Prochain défi pour les scientifiques, trouver l'élément 119, le premier de la supposée huitième ligne. Et si l'anorexie n'était pas la peur de prendre du poids mais plutôt le plaisir d'en perdre, c'est ce que suggère une étude de l'INSERM publié cette semaine. Les chercheurs ont montré des images de personnes de différents poids à des sujets sains ou atteints d'anorexie. Les images de surpoids et de poids normal révèlent la même chose chez les deux types de sujets, tandis que les images des personnes maigres révèlent des émotions positives seulement chez les anorexiques. On passe donc du registre de la phobie à celui de l'addiction, s'exprimant par deux circuits cérébraux bien distincts, ce qui pourrait permettre d'impliquer à l'avenir de nouvelles thérapies différentes. Et puis un poisson se baladant tranquillement à l'intérieur d'une méduse, c'est ce que montrent différents clichés ainsi qu'une vidéo prise par Tim Samuel. C'est un plongeur australien en décembre dernier. Selon certains experts, ce phénomène unique est à nuancer. Ce poisson aurait pu tout simplement être avalé par la méduse. Cependant, cela semble impossible compte tenu de sa taille à l'image. Les scientifiques optent plus pour un effet d'optique, voire même un canular. S'agit-il donc d'un montage ou d'un comportement qui nous échappe encore? Quoi qu'il en soit, cette vidéo surprenante est à retrouver sur la page Facebook de la Tête au Carré. Allez, la nouvelle microbiologie, c'est dans un instant, mais pour le moment, Rebecca Manzoni vient nous rendre visite pour parler de musique, bien sûr.
L'Esprit Inter.
L'Esprit Inter, volume 5, c'est la nouvelle compilation de France Inter.
L'Esprit Inter. La sélection pop française et internationale de France Inter sur un double CD.
Aujourd'hui, toute la journée, les voix d'Inter choisissent une chanson parmi les 42 qui composent ce double album. Esprit, es-tu là ? Bruno Duvic, c'est un jour en France tous les matins entre 10 et 11 heures. Mais tout de suite, Bruno Duvic et Calypso Rose, Bruno Duvic et Calypso Queen. Calypso Rose, c'est l'artiste que vous avez choisi.
Oui, le mot-clé, c'est citron vert. Cette chanson me donne envie de citron vert. Il y a une fraîcheur et en même temps il fait chaud autour, je peux pas le dire autrement. Et puis c'est l'été bientôt, on a envie d'entendre ça, moi j'ai envie d'entendre ça. Alors oui, je suis Calypso Rose, je suis Calypso Queen.
Donc vous allez danser là-dessus?
Mais bien sûr.
Et le refrain ça fait comment?
Non, ne me faites pas chanter, ça va être joli derrière, ne gâchez pas tout.
Bon alors on écoute. L'Esprit Inter, volume 5, c'est dans les bacs, demain. They say that I reign too long, forgetting that my constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making plot to take down me name. I've been breaking down walls ever since I was small. They could stand up tall and strong like a wrecking ball. I could knock them down. They say that I reign too long, forgetting that my constitution is strong. Instead of respecting me long, long. Making blood to take down my name. Everywhere I reign supreme, the one and only Calypso Queen. No man alive or dead could man come and take the crown off me head. Them foolish and petty men, to call me small island girl. Now I travel the world. Anywhere they go, they know I am Calypso Rose, queen of Calypso.
singing on. They say that I've been too long, forgetting that my constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making cut to take the meaning.
Voilà, Calypso Rose, extrait de la compilation L'Esprit Inter qui sort aujourd'hui et c'était le choix de Bruno Duvic.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Pascal Cossard, vous êtes notre invité cet après-midi à l'occasion de la publication de ce livre La Nouvelle Microbiologie chez Odile Jacob. Vous êtes professeur à l'Institut Pasteur et secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. J'en ai peu reçu à ce micro.
Ben merci. D'abord, je vais vous dire, je suis ni secrétaire, ni perpétuelle.
Alors ?
Je suis à la tête de la division 2 de l'Académie des sciences, ouais, qui regroupe la chimie, la biologie et la médecine. Et avec l'autre secrétaire perpétuel, nous gérons, nous organisons, nous essayons d'ouvrir l'Académie. Ouais. À la société, au grand public, aux autres scientifiques.
Donc vous êtes bien secrétaire perpétuel et détenez-vous les secrets de la longévité justement ou pas? Vous qui travaillez dans les bactéries, les microbes?
Non, pas les secrets de la longévité, mais peut-être les secrets de la jeunesse.
Ouais. On va parler avec vous de ce domaine, donc la microbiologie qui a complètement bouleversé le champ de la biologie ces dernières décennies. Les auditeurs nous rejoignent justement avec des questions pour vous sur franceinter.fr et sur le mot-clé, l'attaque. De quoi ça s'occupe justement un microbiologiste exactement, Pascal Cossard?
Ça dépend lesquels. Il y en a qui s'occupent bien sûr de comprendre les infections. Mais ce que je voudrais avoir comme gros message aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de bactéries qui ne produisent jamais d'infections.
Qui ne sont pas pathogènes.
Qui ne sont pas pathogènes. Et il y a beaucoup de microbiologistes qui essaient de comprendre comment les bactéries vivent, survivent, se prolongent, parlent entre elles.
Ah oui, il y a beaucoup de communication.
Il y a beaucoup de communication. Les bactéries s'envoient des petits signaux.
Ouais.
Elles se reconnaissent. Elles se disent, toi, tu es ma cousine. Toi, tu es ma sœur.
Ou mon ennemi. Ou mon ennemi.
Ou mon ennemi. À ce moment-là, elles sont peut-être un tout petit peu imperturbables. Mais en fait, elles décident ensuite de faire des choses ensemble. Et c'est ça qui est très important.
Et c'est cette communication qu'on essaie de bien comprendre aujourd'hui ?
L'une des choses qu'on essaie de comprendre, oui. Parce que la communication, elle peut avoir lieu dans des bouillons de culture à l'Institut Pasteur, mais elle peut avoir lieu à l'intérieur de votre intestin ou dans des tuyaux qui sont contaminés par des bactéries qui ne devraient pas être là. Enfin, ça se passe partout.
Donc ça fait beaucoup de champs d'exploration
beaucoup.
Quand on pénètre ce domaine, domaine de recherche qui est le vôtre. Vous vous êtes intéressé en particulier aux bactéries qui pénètrent clandestinement dans les cellules. Est-ce que je peux résumer les choses de façon si grossière?
Oui, c'est assez bien résumé. Elles pénètrent subrepticement mais efficacement dans les cellules. Et ma bactérie chérie s'appelle Listeria.
Donc, alors, vraie bactérie pathogène là pour le coup.
Pas vraiment.
Pas toujours.
Vous n'avez jamais eu de listériose?
Non. Ben non, mais le mot fait peur en tout cas.
Le mot fait peur, mais en fait, la listeria ne produira une listériose que si le terrain est propice.
Ouais.
Soit que vous soyez un petit peu immunodéprimé, soit que vous soyez très vieux, très jeune, ou une femme enceinte.
Qu'est-ce que vous étudiez autour donc, de cette bactérie alors?
Au cours des années, c'est-à-dire depuis très longtemps maintenant, presque 30 ans, on a étudié la façon dont elle rentre dans les cellules, dont elle se propage d'une cellule à l'autre. On a étudié la façon dont elle traverse les barrières de l'autre qu'elle infecte, c'est-à-dire la barrière intestinale, la barrière fœto-placentaire. On a étudié la façon dont elle résiste aux défenses de l'autre. On a étudié la façon dont elle-même fait pour dire « je mets en place des outils pour aller tuer mes voisines ou tuer l'autre que je suis en train d'affecter ».
Ouais. Donc elle est capable de passer de cellule en cellule sans passer par le courant sanguin ?
Elle n'est pas capable, dans un tissu où vous avez des cellules qui sont les unes contre les autres, elle est capable de passer d'une cellule à l'autre.
Ouais.
C'est-à-dire qu'elle pousse la membrane. Et puis, elle est capable de discrètement former une sorte de petite poche, une vacuole. Elle sort de cette vacuole et elle est dans la deuxième cellule infectée.
Ouais.
Et de proche en proche, elle peut infecter pas mal de cellules.
Ça fait donc 30 ans que vous étudiez cette bactérie, Pascal
Cossard.
Vous la connaissez par cœur, alors elle n'a plus de secrets pour vous?
Eh bien, elle a encore beaucoup de
secrets.
C'est vrai ? Et oui, et d'ailleurs...
Quelles sont les questions qui restent en suspens alors?
Ben justement,
autour de l'hystéria.
Oui, justement, la façon dont un certain gène peut s'exprimer, la façon dont une certaine molécule est exprimée, par exemple, quand l'hystéria est sur une feuille morte ou quand elle l'est dans votre corps. Mmh. Il y a des différences d'expression qui sont absolument passionnantes et on étudie à l'heure actuelle justement ces choses-là.
Les plantes possèdent des bactéries aussi?
Les plantes possèdent des bactéries. Dans mon livre, j'ai plusieurs chapitres qui parlent des plantes. Alors, vous avez par exemple les bactéries qui sont des pathogènes pour les plantes. Vous avez entendu parler de ces infections des oliviers qui sont catastrophiques en Italie du Sud. Et vous avez aussi entendu parler qu'il y a des bactéries qui vont sur les racines des plantes et qui leur permettent de capter l'azote et de mieux pousser. Donc, il y a beaucoup de bactéries aussi qui interagissent avec les plantes.
Extrait justement d'un film, parce qu'on va parler évidemment microbiologie, on ne peut pas ne pas évoquer Pasteur, extrait justement d'un film qui lui était consacré, pour en discuter ensemble dans un instant.
Les découvertes des microbes n'ont pas grand intérêt pour la médecine. Elles ne valent ni le temps qu'on y passe, ni le bruit qu'on en fait. Monsieur Pasteur est sans doute un éminent chimiste qui, inspiré par le désir d'être utile, veut réformer une médecine à laquelle il est absolument étranger. Mais nous, les médecins, savons très bien, et depuis fort longtemps, que les maladies viennent de l'intérieur du corps et qu'elles ne sont pas apportées par d'étranges micro-organismes qui flotteraient dans l'air par la grâce du Saint-Esprit.
Ne pas reconnaître l'importance des micro-organismes revient à continuer à tuer les malades, non plus par ignorance, mais par bêtise, monsieur Peter. Et si l'on peut excuser l'ignorance, rien ne pourra pardonner les crimes que vous commettez tous les jours dans vos hôpitaux.
Ah, c'était tendu, hein, en juillet 85 à l'Académie de médecine, Pascal Cossard. Pasteur doit se défendre, hein. Oui, on le prend pour un fou à l'époque.
Oui, bah, c'était la période où on pensait que... beaucoup de gens ne croyaient pas à l'existence des microbes et on a été obligé de vraiment démontrer que les maladies étaient dues à des microbes, qu'elles étaient responsables de tous les signes cliniques qui y existaient et c'était pas uniquement venu de l'organisme qui était malade.
Quoi. Ouais. C'est la préhistoire de la microbiologie au fond.
C'est le démarrage d'une très grande microbiologie qui a démarré, on peut dire, en France et en Allemagne avec en France Pasteur et son compétiteur Robert Koch en Allemagne.
Ouais, c'est ça. Alors il y a d'autres moments marquants évidemment au cours de l'histoire. Vous les évoquez aussi dans cet ouvrage pour parler de la connaissance sur les maladies infectieuses. Il y a eu aussi la découverte de l'ADN. Ça, ce sont les années 50. Autre passage fondamental et qui a tout bouleversé.
Oui. Ça, c'est vraiment après la découverte de l'ADN, après la découverte de moyens de manipuler l'ADN, les gens s'intéressaient à des bactéries modèles comme Escherichia coli.
Oui.
Mais ma génération a commencé à utiliser les outils qui avaient été mis en place pour commencer à analyser la façon dont ces bactéries pathogènes étaient responsables de maladies. Donc, on a commencé à essayer d'analyser les gènes de virulence, ceux qui sont responsables, par exemple, de la sécrétion d'une toxine, ceux qui sont responsables de la façon dont une bactérie va rentrer dans une cellule. Et ça, c'est arrivé à peu près au même moment que, justement, des microbiologistes ont décidé d'associer ces techniques de biologie moléculaire avec des techniques d'imagerie. Et c'est la combinaison des deux qui a fait que la connaissance des maladies infectieuses a fait vraiment un grand bond.
Oui, le fait de pouvoir les identifier, les voir aussi à l'image. Oui,
la façon de pouvoir les voir était vraiment absolument décisif dans la façon de comprendre les maladies.
Oui, donc les bonds géants dans votre discipline sont associés évidemment aux outils technologiques, évidemment.
La troisième grande chose, ça a été la génomique. C'est-à-dire d'essayer de comprendre tous les génomes des bactéries a permis de pouvoir vraiment les connaître en détail.
Il y a une autre évolution dont vous parlez, alors c'est peut-être la partie la plus complexe de ce livre, c'est l'ARN. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'ADN, mais l'ARN aussi a un rôle qui a été découvert dans les années 60 et qui est absolument prépondérant aussi dans cette histoire de la microbiologie.
Oui, alors vous dites que c'est la partie la plus difficile de mon livre, alors aujourd'hui je vais essayer d'être un tout petit peu clair, même si je crois que c'est assez clair dans mon livre. À l'intérieur des bactéries, il y a l'ADN, les gènes. D'accord ? Ils sont soit copiés, répliqués, pour que deux copies d'ADN puissent passer dans deux bactériophages. C'est ce qu'on appelle la réplication. Mais ils peuvent aussi être, d'une certaine façon, copiés, mais pas copiés à l'identique, par une machinerie qui s'appelle la transcription. Et à ce moment-là, l'ADN devient un ARN. Et l'ARN est une grande molécule qui peut être lue par la machinerie de traduction en protéines. Donc en fait, l'ARN était considéré comme une molécule intermédiaire.
Son rôle avait été minimisé, quoi, en gros.
Voilà, on disait c'est un ARN messager. Mais maintenant, on a réalisé qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'ARN qui avaient des fonctions tout à fait importantes, aussi bien que les protéines. Alors évidemment, l'héritage du passé a fait que on considérait que tout ce qui était régulateur, c'était des protéines. Mais maintenant, on s'aperçoit que les ARN sont aussi des régulateurs. Et donc, ils sont revenus en surface. Ouais. Et beaucoup de laboratoires dans le monde étudient les ARN.
Et vous rendez hommage à Jacob Émono, d'ailleurs, au passage.
Ah bah évidemment.
1961.
Évidemment que je rends hommage à Jacob Émono. Mais n'empêche qu'eux, ils avaient prédit un répresseur qui serait peut-être un ARN, mais comme le répresseur de leur opéron chéri, qui est l'opéron lactose, était une protéine. Pendant très longtemps, on s'est occupé de répresseurs ou d'activateurs qui n'étaient que des protéines.
Et l'histoire leur a donné raison. On se retrouve dans un instant, Pascal Cossard, pour la suite de cette nouvelle microbiologie avec les messages des auditeurs.
Les chansons de Prévert me reviennent de tous les souffleurs de verre, l'aine du vieux ferré, les cris, la tempête, Boris Vian, ça s'écrit à la trompette. Rive gauche à Paris, adieu mon pays, de musique et de poésie, les marchands. Soit la nuit, elle passe au Mazelda, c'est fini. Montparnasse, Miles Davis qui sonne, Sagreco, tous les Morrison, leur Nico. Rive gauche à Paris, oh mon île, oh mon pays, de musique et de d'art et de liberté éprise, elle s'est fait prendre, elle est prise, elle va mourir quoi qu'on en dise, et ma chanson la mélancolise. C'est du théâtre et des souvenirs, mais nous sommes opiniâtres à ne pas mourir, à traîner sur les berges. Venez voir, on dirait Jane et Serge sur le pont des arts. Rive gauche à Paris, adieu mon pays, adieu le jazz, adieu la.
Rive Gauche, Alain Souchon dans cette tête au carré et Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission. Pascal Cossard, notre invité, avec ce livre chez Odile Jacob, La Nouvelle Microbiologie, des microbiotes au CRISPR. C'est comme ça qu'on le prononce, ce mot un peu barbare, mais dont on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler ces derniers temps, qui fait l'objet d'énormément de publications, qui fait figure de véritable révolution aussi dans votre domaine. C'est vraiment depuis 10 ans ce dont on parle le plus, quasiment, et où les enjeux aussi sont les plus forts.
En fait, il y a deux choses quand on parle des CRISPR. Il y a premièrement la découverte très importante que les bactéries ont une sorte d'immunité. Elles ont vu passer un virus, elles en attrapent un petit fragment, et toute la descendance des bactéries qui ont ce petit fragment en elles vont être capables, si le virus repasse, de le
reconnaître.
Ouais.
Donc il y a une sorte de mémoire, on pourrait dire ça comme ça.
Absolument, il y a une mémoire. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est vraiment un concept nouveau chez les bactéries.
C'est nouveau dans la découverte qu'on en fait ?
Non, c'est nouveau.
Ou c'est nouveau dans les bactéries elles-mêmes ?
Non, c'est pas nouveau dans les bactéries. Ça existe depuis très longtemps. Mais c'est nouveau dans notre connaissance. Et c'est très important, par exemple, dans l'industrie du yaourt.
Ouais.
Si vous avez un phage, un bactériophage qui arrive et qui tue la bactérie qui fait le yaourt, c'est fini. Vous n'avez plus le yaourt que vous souhaitiez faire. Donc c'est très important. Ça a des conséquences très importantes pour l'industrie laitière. Et effectivement, comme vous le disiez, ça a eu des conséquences extrêmement importantes en biologie en général, parce qu'on s'est aperçu que tout le mécanisme qui est impliqué dans justement la lutte contre ces bactériophages, la lutte contre ces virus, est dû à une molécule qui s'appelle Cas9, c'est-à-dire Cas9, une protéine qui est une enzyme extraordinaire qui peut couper l'ADN de façon très propre, pour peu qu'elle soit guidée par un petit ARN, et on sait bricoler un peu tout ça.
Oui, c'est la boîte à outils, hein. C'est
voilà.
Ce qu'on disait.
On a utilisé le mot boîte à outils, la paire de ciseaux,
voilà.
Etc. Moi, ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est que n'importe quel biologiste moyen va pouvoir aller bricoler le génome de l'organisme sur lequel il travaille. Ouais. Que ce soit une levure, un poisson zèbre, un animal, éventuellement un homme. Ouais. C'est là où les problèmes éthiques arrivent. Parce que
bricoler l'ADN, il faut faire attention à ce qu'on fait quand même.
Et le recul
qu'on en a aujourd'hui, il est quand même très mince, non ?
Le recul, il a quelques années. C'est-à-dire que un gros problème, c'est savoir si on va, par exemple, essayer de remplacer un gène par un autre, est-ce qu'on n'est pas en train de toucher un autre gène ? Non, ça, c'est ce qu'on appelle les off-targets, c'est-à-dire les cibles qui ne sont pas les cibles qu'on souhaitait. Donc, on utilise, par exemple, des concentrations de Cas9 qui sont plus faibles, en se disant, on va aller juste là où il faut. Mais il y a des tas de problèmes qui ne sont pas encore vraiment résolus, c'est clair.
CRISPR-Cas9, donc en bon français.
Voilà.
Emmanuel Charpentier, qu'on avait reçu il n'y a pas si longtemps dans cette émission,
oui.
Dont on espère un prix Nobel, clairement, pour ses travaux. Ça, c'est vraiment, aujourd'hui, en tout cas, une des techniques les plus révolutionnaires en biologie.
C'est une technique qui est très révolutionnaire, parce qu'il y avait eu d'autres techniques qui avaient essayé de modifier les génomes, et qui sont un tout petit peu plus difficiles à mettre en jeu. Mais ceci dit, toutes les techniques ont leurs petits inconvénients, et à l'heure actuelle, je pense qu'on est dans une phase où il faut être relativement prudent.
Donc il y a beaucoup de promesses, ça on le sent bien, ça excite tout le monde. Tout le monde a envie de s'emparer de CRISPR-Cas9.
Oui, on l'a fait avec des étudiants l'année dernière au cours de l'Institut Pasteur.
Qu'est-ce que vous avez bricolé alors avec eux, par exemple ?
Mais c'était des gènes dans des cellules de mammifères, des gènes par exemple pour des septines, enfin on voulait avoir des choses qui nous ont servi dans notre laboratoire.
Ouais, et ça a fonctionné.
Ouais. Donc, c'est des choses qu'on peut faire avec des étudiants.
Ouais. À l'avenir, il faudra vraiment compter avec CRISPR-Cas9.
C'est-à-dire que vous
pour soigner des maladies, par exemple.
Non, vous pouvez soigner certaines choses, mais le problème à l'heure actuelle, c'est de savoir si on peut aller jusqu'aux cellules qui sont vraiment les cellules, les cellules germinales.
Ouais.
Imaginez qu'on vous soigne pour une maladie, éventuellement, votre descendance sera soignée ou mal soignée. Donc ça créerait vraiment des problèmes éthiques.
Autour de la thérapie cellulaire, justement, on a un extrait à vous faire entendre autour d'un homme qui a servi de cobaye, justement, à la recherche, pour soigner une insuffisance cardiaque sévère. On l'écoute et on commente juste après.
La thérapie cellulaire, Patrick Oxemery, 61 ans, est l'un des tout premiers à en avoir bénéficié. Il a servi de cobaye alors qu'il souffrait d'une insuffisance cardiaque sévère.
il y a 3 ans, je n'aurais pas marché jusqu'ici. C'est pratiquement certain. Hein. Et en pire, c'est que j'aurais pas remonté cette côte. Pour le petit faux plat qu'il y a. Ça, c'est... Je l'ai vécu. Et donc, pour moi, maintenant, c'est presque revenu à la normale.
Voici son cœur. En mauve, la partie abîmée, suite à une artère bouchée. Des cellules de moelle osseuse lui ont été prélevées, puis mises en culture et réinjectées pour réparer la partie malade. Au CHU de Toulouse, 10 patients ont déjà bénéficié de cette thérapie. 8 d'entre eux vont bien. Un espoir pour les milliers d'insuffisants cardiaques.
Voilà, c'est en 2013. Exemple des nouvelles thérapies, Pascal Cossard, qu'on peut utiliser aujourd'hui avec quand même des
oui, mais
effets.
Là, on introduit des nouvelles cellules. Ce dont on parlait avant, c'était plutôt du bricolage moléculaire. Et je pensais que vous alliez plutôt me faire parler de thérapie cellulaire, c'est-à-dire au lieu d'essayer de guérir un organisme entier, on pourrait éventuellement penser guérir, une partie du corps, par exemple la peau, ou juste un tissu.
Ouais.
Donc, c'est pas tout à fait mon domaine.
Alors, on vit en tout cas dans une époque, on parle beaucoup d'une chose, c'est le microbiote. Ça, c'est un mot qui est même devenu populaire hein, dans le langage commun. Ce qu'on appelait autrefois la flore intestinale, c'est ça ?
Oui, vous avez dit, on parle du microbiote, mais moi je parle des microbiotes, parce qu'il y a des microbiotes à différents endroits. On parle beaucoup à l'heure actuelle du microbiote intestinal, mais comme je le dis dans mon livre, il existe un microbiote sur la peau, il existe un microbiote vaginal, il existe un microbiote dans la cavité ombilicale. Donc, tous ces microbiotes, c'est-à-dire toutes ces grandes assemblées de microbes...
Bactéries,
pas uniquement de bactéries.
Pas uniquement de bactéries, oui.
Il y a des bactéries, mais il peut y avoir des petites amibes, autre chose. Toutes ces grandes assemblées de microbes sont là pour gérer l'équilibre du tissu. Et donc, si par hasard arrive une bactérie pathogène ou un virus, elles sont là pour justement exercer une surveillance très serrée et éventuellement stimuler le système immunitaire, essayer de pallier à l'infection.
Donc c'est cette association entre par exemple des bactéries et d'autres micro-organismes qui forment ces microbiotes. Donc on parle d'écosystèmes aussi de temps en temps.
Oui, ce sont des écosystèmes parce que vous pouvez tout à fait parler du microbiote qui est sur les racines des plantes. Finalement, l'intestin des plantes, c'est leur racine. Hein. C'est notre intestin, c'est leur racine, on va dire. Et donc, il y a des grandes assemblées de bactéries qui sont là pour produire des molécules, pour protéger. Jouer de multiples rôles.
Vous racontez une histoire de calamar, Pascal Cossard, dans votre ouvrage.
Oui, ça c'est une histoire extraordinaire. Vous avez un calamar qui a une poche qui est pleine d'une seule bactérie qui s'appelle Vibrio fischeri, et ce sont des bactéries qui sont luminescentes.
Ouais.
Alors ce qui se passe, c'est que ce calamar vit dans le sable, et la nuit, il sort du sable et il veut aller chasser. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si la lune éclaire ce calamar, il y a une ombre portée sur le sol qui fait que les proies qui aiment les calamars vont se précipiter. Mais, comme il a des vibrio fischeri qui sont luminescents, il n'y a pas d'ombre. Et donc, il peut chasser tranquillement, manger ses crevettes toute la nuit, etc. Et à la fin de la nuit, il rentre chez lui dans le sable, après avoir cracher toutes ces bactéries, il en reste presque plus. Là.
Oui, alors c'est ça. Donc c'est la symbiose, c'est vraiment la coopération entre des bactéries.
Vous venez de prononcer le mot qu'il fallait prononcer. C'est une symbiose complète. C'est-à-dire qu'en fait, il en a besoin, et en fait, les bactéries ont besoin de ce qui se passe dans la petite poche pour se multiplier toute la journée, en fait.
Voilà.
Et alors là, on touche aussi une autre notion dont je parle dans le livre parce que je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est que ces vibrios ont la capacité de réguler ce qu'on appelle le rythme circadien. Le rythme circadien, c'est le rythme qui fait que vous, moi, nous faisons la même chose toutes les 24 heures. Les calamars ne sont pas différents, ils font la même chose toutes les 24 heures. Et on s'aperçoit que les bactéries des calamars régulent le rythme circadien. Alors, qu'en est-il chez nous ? Eh bien, on s'aperçoit à l'heure actuelle que votre microbiote intestinal est aussi changeant en fonction du rythme circadien. Alors, est-ce que le microbiote régule ou est-ce que c'est le rythme circadien qui régule le microbiote ? Ça, c'est des choses qui sont à l'heure actuelle tout à fait étudiées. Mais on s'aperçoit que si vous avez des décalages horaires, vous voyagez, etc., vous commencez à avoir, de façon vulgaire, mal au ventre. Mmh. Pourquoi ? Parce que vous avez ce qu'on appelle une dysbiose. L'ensemble des bactéries qui est chez vous commencent à ne plus être en équilibre. Il y en a qui prennent le dessus, il y en a qui sont inférieurs. Et vous avez des problèmes de digestion qui peuvent aller jusqu'à des troubles graves et même de l'obésité.
Et ça, ce sont des découvertes récentes aussi ?
Ah oui. Ouais. Et on sait que, justement, les travailleurs nocturnes, que ce soit des infirmières, des travailleurs nocturnes, se plaignent beaucoup de problèmes intestinaux parce que, justement, il y a des problèmes de rythme circadien.
On parle de microbiote, mais aussi de calamar. Donc, dans le livre de Pascal Cossard, La Nouvelle Microbiologie, vous restez avec nous. Dernière partie de cet entretien dans un instant. Reason avec Célassou.
La tête carrée sur France Inter.
Pascal Cossard, donc professeur de microbiologie, notre invité pour justement cet ouvrage, La Nouvelle Microbiologie des microbiotes au CRISPR. C'est chez Odile Jacob. La vie sociale des bactéries, c'est comme la vie des fourmis, hein, quasiment. C'est une société à part entière, hein, avec des modes de communication et d'échange.
Voilà, on parle de socio-microbiologie parce que justement, les bactéries vivent en société. On a parlé du microbiote intestinal, mais on a des sociétés, des assemblées de bactéries partout dans l'environnement. Et on parle aussi, puisqu'on parle de société, on parle de communication. Donc ouais. Elles se parlent entre elles s'envoient des signaux. Et vous allez dire, comment elles reçoivent ces signaux ? Ben, elles les reçoivent soit pas sur leur peau, parce qu'elles n'ont pas de peau. Mmh. Elles ont une surface, elles ont des récepteurs qui vont capter ces signaux. Soit la petite molécule qu'elles ont envoyée passe directement à l'intérieur de la bactérie, elles ont des récepteurs intracellulaires. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elles reçoivent ce signal, et plus elles en reçoivent, plus elles se disent « mais il y a beaucoup de monde tout autour ». Et elles sont capables de percevoir la concentration des bactéries qui sont autour d'elles. Alors évidemment, il y a des signaux auxquels elles sont complètement apathiques, elles ne réagissent pas, et il y a des signaux qu'elles reconnaissent très bien. Et imaginez une bactérie comme celle dont on a parlé, la bactérie luminescente. Elle s'aperçoit que les bactéries ne sont pas vraiment luminescentes au départ, mais elles ne le deviennent que si elles sont suffisamment nombreuses. Donc elles reçoivent les signaux. Et puis, la concentration des signaux est telle que finalement, toute la machinerie de luminescence se met en route, elle devient luminescente. Et là où c'est plus grave, c'est quand vous avez des bactéries pathogènes, c'est-à-dire que vous avez des bactéries qui, quand elles sont seules, ne font rien, et puis sitôt qu'elles sont une petite armée,
ouais,
qu'elles ont reconnu qu'elles étaient nombreuses, elles mettent en route tous leurs gènes de virulence, par exemple une toxine, elles partent à l'attaque.
Ouais. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, elles se retrouvent en groupe, d'ailleurs, ces bactéries? Qu'est-ce qui favorise justement ces regroupements?
Elles sont dans des niches où elles sont bien et elles se multiplient. Une bactérie donne deux bactéries, donc elles se multiplient. C'est simplement ça.
Et qu'est-ce qui brouille la communication entre les bactéries, alors?
Qu'est-ce qui brouille la communication entre les bactéries?
Je pense aux antibiotiques, par exemple. Est-ce que le fait de prendre des antibiotiques, ça peut casser justement cette communication, ces messages que s'envoient les bactéries?
Ça va les casser, puisque si les bactéries sont mortes ou si les bactéries sont arrêtées dans leur croissance, elles vont peut-être pas avoir la force de faire de réagir. Mais non, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est très important, c'est que si des bactéries communiquent entre elles et sont capables de se reconnaître et d'agir en groupe, si on est capable d'empêcher qu'elles communiquent, à ce moment-là, on va pouvoir empêcher qu'elles produisent des facteurs de virulence et on aura... Ce ne sera pas vraiment un antibiotique avec la vieille définition de « on tue la bactérie », mais on tue leur virulence, ce qui est très important. Finalement.
Qu'est-ce que le quorum sensing, Pascal Cossard, s'il vous plaît?
Mais le quorum sensing, c'est vraiment ça, c'est sentir le quorum, c'est sentir si on a le quorum, si on a atteint la densité qui est suffisante pour mettre en route tout un programme. Donc c'est un mot que je n'ai pas réussi à traduire dans mon livre, donc je l'ai utilisé comme ça.
Et on l'utilise absolument partout, même à papeter, comme le prouve justement cet extrait, avec les bactéries des crevettes.
Notre but, c'est de tester nos extraits sur ces bactéries-là. L'inhibition du quorum sensing permet d'arrêter la virulence, donc d'arrêter la maladie sans tuer les bactéries. Tandis qu'un antibiotique, lui, il a pour but... d'arrêter la croissance d'une bactérie. Donc le risque de cette technique-là, c'est que en fait les bactéries vont changer, vont évoluer et donc vont devenir résistantes à cet antibiotique-là.
Donc on attend beaucoup de choses finalement de toutes ces recherches, donc de trouver des molécules d'origine marine qui soient présentes en plus en Polynésie française. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, on aura besoin à terme, notamment en aquaculture, de molécules nouvelles qui interviendront en substitution aux antibiotiques. On sait tous que les antibiotiques ont été énormément utilisés, on peut en retrouver dans l'environnement, ça pose des problèmes, notamment d'acquisition de résistance des bactéries à ces antibiotiques, et on veut garder les antibiotiques, bien évidemment, pour la santé humaine. Donc on est à la recherche, finalement, de molécules d'origine marine qui soient capables naturellement d'inhiber la croissance bactérienne ou les mécanismes de quorum sensing, c'est-à-dire de communication bactérienne.
Voilà, un reportage tourné il y a 2 ans à Papété. Et là, on est vraiment sur une voie de recherche très importante, hein, Pascal Cossard.
Oui, en fait, ce que ce monsieur était en train de dire, c'est qu'il était en train de lutter contre les bactéries qui contaminent les crevettes dans des élevages de crevettes. Comme je vous l'ai dit, le monde des bactéries est un monde qui est universel. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu, dans mon livre, parler uniquement des bactéries des hommes, qu'elles soient pathogènes ou non. On parle aussi des bactéries des plantes, on parle aussi des bactéries des insectes, puisque c'est très important. Et tout à l'heure, je disais que c'était très important que les bactéries restent là où elles doivent faire leur travail, dans des industries laitières. Mais là, on parle d'élevage de crevettes et c'est extrêmement important de ne pas avoir bactéries pathogènes.
Donc les plantes ont également leur microbiote, hein, on peut le rappeler, parce qu'on le sait moins. On parle beaucoup du microbiote humain. Comment ça se traduit d'ailleurs chez une plante exactement? Ça se situe où?
Vous avez des microbiotes sur les racines, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, vous avez aussi des microbiotes sur les feuilles à l'extérieur. Il y en a beaucoup moins, parce que finalement, il y a du soleil, il y a du vent, il y a moins de bactéries. Donc, c'est surtout au niveau des racines qu'à l'heure actuelle, les recherches sont extrêmement importantes.
Laurent demande comment surmonter justement le problème des bactéries résistantes. Est-ce qu'on va pouvoir inventer aujourd'hui de nouveaux antibiotiques? Là, c'est vraiment un problème qui est crucial à l'échelle de la planète. Hein. Il y avait encore un article dans Le Monde, d'ailleurs, qui en parlait.
Oui, l'article dans Le Monde que j'ai là devant les yeux dit qu'en 2050, le nombre de décès liés à la résistance aux antimicrobiens pourrait atteindre 10 millions par an.
Oui, donc très sérieux.
Donc c'est la plus grande épidémie à laquelle on est en train d'assister. C'est vraiment dramatique, mais ça fait des années que des microbiologistes comme nous le disons, halte aux antibiotiques, on les trouve, ils ont été mal utilisés, ils ont été trop utilisés chez l'homme, et ils ont été trop utilisés chez les animaux. Donc à l'heure actuelle, il y a des tas de, disons, de directives qui font qu'il faut utiliser le moins possible les antibiotiques, il faut utiliser des antibiotiques qui soient dirigés contre une cible très précise, c'est-à-dire que si vous n'avez pas identifié exactement à quoi votre bactérie est sensible, c'est pas la peine d'aller donner des antibiotiques. Il y a des tas de...
Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? On va inventer deux nouveaux antibiotiques ou c'est vraiment pas la solution? La seule solution étant plutôt justement d'arrêter d'en utiliser tout simplement.
Moi je pense qu'il y a les deux.
Sauf dans certains cas,
non,
évidemment.
Moi, je pense qu'il y a les deux. D'ailleurs, on a eu l'exemple que je raconte aussi dans ce livre, où on pensait qu'on ne pouvait plus cribler toutes les bactéries du sol pour savoir si elles ne produisaient pas des antibiotiques. Oui. Maintenant, on est capable de mimer un peu le sol et de se rendre compte qu'on peut trouver encore des antibiotiques. Parce que les antibiotiques, en fait, au départ, ils sont faits par les bactéries. Parce que ça, c'est une chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure. C'est que les bactéries, non seulement elles agissent ensemble, mais quelquefois elles se battent. Et c'est struggle for life. Ouais. Il y en a qui se battent, il y en a qui se tuent. Et elles se tuent comment? En produisant des antibiotiques, en fait. En produisant des bactériocines, des molécules qui tuent le taux de bactéries. Donc il y a différentes voies à l'heure actuelle qui sont prises pour trouver des nouveaux antibiotiques. Tout à l'heure, on a parlé entre nous de la phagothérapie, c'est-à-dire d'utiliser des virus de bactéries pour aller cibler des bactéries. Ça, c'est une voie. Il y en a d'autres qui utilisent, par exemple, la connaissance des génomes. Si vous connaissez le génome d'une bactérie, vous pouvez éventuellement dire, on va identifier une molécule qui est présente chez une bactérie, une enzyme qui est présente chez une bactérie et qui n'est pas présente dans les cellules humaines, par exemple, et on va essayer de l'inhiber. Donc on essaie de cibler des choses qui sont bactéries spécifiques, on va dire.
Geneviève demande, est-ce qu'on pourrait éradiquer les moustiques vecteurs de maladies grâce à des bactéries, justement, Pascal Cossard?
Alors, éradiquer les moustiques avec des bactéries. Bon, il y a des bactéries qui tuent certains insectes. Ça, j'en parle aussi dans mon livre. Il y a des bactéries qui tuent les insectes. Mais ce que je raconte dans mon livre, c'est qu'en fait, il y a chez les moustiques des bactéries qui font que ces moustiques sont plus ou moins porteurs de vecteurs de maladies. Par exemple, le virus de la dengue qui est véhiculé par des moustiques. Dans certains cas, à une concentration beaucoup moins forte parce que le moustique porte une bactérie qui s'appelle Wolbachia, qui est la bactérie que j'adore de plus en plus.
Pascal Cossard, la nouvelle microbiologie avec entre autres ces bactéries, un domaine en pleine effervescence.
En pleine renaissance.
En conclusion de votre ouvrage qui paraît chez Odile Jacob. Merci beaucoup d'être venu nous en parler cet après-midi.
Merci beaucoup.